manufacturières qui lui permettent une telle performance. L'activité dans ces catégories marque un record depuis 1997, respectivement à 63 et à 62,4. Du côté des services, néanmoins, l'activité se contracte toujours malgré un niveau au plus haut depuis 7 mois. L'indice de référence est à 48,8. Du côté des valeurs, ces résultats profitent à ArcelorMittal. Le groupe sidérurgique gagne 4% aujourd'hui. C'était Rémi Demichelis, Investir pour RFI.
Merci Rémi, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Il est 18h10 à Paris, 17h10 en temps universel.
Radio G, 101.5 FM.
C'est FTC.
Non, aujourd'hui, les syndicats, ça sert plus à rien.
Ben si.
Ils ont négocié notre convention collective. Je gagne mieux ma vie.
Ils ont été avec moi quand je me suis cassé le bras pour le faire reconnaître en accident du travail.
Grâce à eux, j'ai des jours de congé pour m'occuper de ma mère handicapée.
Ah ouais?
Ah bah oui.
Ben si.
Ben si. On vous représente pour améliorer vos conditions de travail et pour que votre vie personnelle soit respectée. Du 22 mars au 6 avril, votez CFTC. CFTC avec un C comme constructif.
Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Oh, franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid, et ce n'est qu'un début. Ceci est un message du gouvernement.
Écoutez Radio G, vous écoutez maintenant l'oreille curieuse. Bienvenue dans la quotidienne des actualités culturelles, des nouvelles locales, de toutes les choses qu'on a envie de partager avec vous. Toujours du lundi au jeudi à partir de 18h10 et jusqu'à 18h50. Ce soir, c'est mercredi, comme vous le savez, si vous n'êtes pas complètement déphasé, contrairement à nous dans le studio. On va retrouver Guichet Choral avec Céleste. Salut Céleste.
C'est vrai qu'on est mercredi.
Oui, heureusement.
Oui, et j'ai préparé une chronique, donc on est mercredi, effectivement.
Et de quoi vas-tu nous parler ?
De cinéma, bizarrement, de monstres.
Très bien, les personnes ne veulent pas lâcher le morceau, j'espère qu'il y aura quelque chose dans cette chronique.
Oui, évidemment.
On la retrouve ce soir en deuxième partie d'émission.
C'est ça.
On entendra aussi Nicolas qui a préparé un nouveau prêt-à-penser, la chronique consacrée à la psychologie. Et on va parler un petit peu d'un terme qui est cher à la psychanalyse ce soir. Une discipline voisine mais qui n'est pas similaire. On va parler d'inconscient en passant par la discothèque. Et oui.
D'accord.
Et avec nous en studio, il y a aussi Mehdi. Salut Mehdi.
Salut Annie, je suis là.
Tu es là.
Ok. Effectivement.
Et tout le monde en est ravi.
Cool, voilà, ça fait plaisir.
Tu pourras faire les commentaires que tu veux au moment où tu le souhaites. Rassurez-vous, avant de plonger dans cette émission, j'ai pour vous non pas un, mais deux proverbes. Tous les deux sur le terme de la farine, pour saluer toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin avec de la farine. Le premier proverbe est « réussir mieux en pain qu'en farine ». Cela signifie, comme j'imagine que vous vous demandez, terminer heureusement une affaire qui avait été mal engagée. Et ça nous arrive souvent. L'autre proverbe, quand Dieu envoie la farine, le diable enlève le sac. Se dit à propos d'une occasion avantageuse dont on n'a pas su profiter. Voilà, je vous laisse réfléchir à ces deux proverbes qui sont autant boulangers qu'entrepreneuriaux. En tout cas, ils vont nous accompagner ce soir dans cette oreille curieuse. D'accord. Et bien sûr, on commence en musique. Oui, oui, oui. Avec L'envie de valser, qui est un titre de Kimber Rose. Céleste, tu as envie de nous parler de cet artiste ?
Non, bah, je sais que je l'aime bien. Je connais pas grand-chose. Je sais que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très, très jazz, un peu... Très, très instrumental, c'est
bon, on écoute.
C'est dansant, voilà.
Oui, je t'ai pris au piège. Oui. On écoute le seul titre en français de son album, l'album qui est sorti il y a peu, qui s'appelle Out, et c'est un titre en duo avec Sofiane Pamar.
C'est quoi, tu ne l'as pas? Et je ne suis pas cette fille-là qui voudra bien t'embrasser, qui voudra bien te serrer fort dans ses bras. Non, je ne crois pas. Ce je ne sais quoi, non, tu ne l'as pas. Non, je ne veux pas t'embrasser. Ce n'est sûrement pas un seul baiser qui me donnera d'aimer. Non, je ne veux pas t'enlacer. J'ai l'envie de valser. Sans toi, c'est sûr, bébé. J'ai l'envie de valser. Avec un autre, c'est vrai. Qui me fera au frémir. Non, je ne suis pas sous le charme. Devant toi, je garde mon arme. Et je ne suis pas si facile. Et même quand tu bats si fort des cils, je n'ai pas non plus l'envie de te dire ces mots doux que toi tu désires. Ne te débat pas si fort. Cela déforme le corps. Je n'aime pas voir ces ombres autour. Quand une seule chose me touche d'amour, j'ai l'envie de valser. Sans toi, c'est sûr, bébé. J'ai l'envie de valser. Avec un autre, c'est vrai. J'ai l'envie de valser. Passé qui me donnera cet effet. Ce je ne sais quoi, non, tu ne l'as pas. Et je ne suis pas cette fille-là. J'ai l'envie de valser. Sans toi, c'est sûr, bébé. J'ai l'envie de valser. Avec un autre, c'est vrai. J'ai l'envie de valser.
Mehdi, t'as découvert le titre quand je l'ai choisi pour l'émission, t'avais envie de réagir?
Ouais, je connaissais pas et c'est vraiment très très beau.
Ouais, tu vas écouter...
Ouais, je vais l'écouter chez moi.
J'espère que chaque personne qui écoute un titre dans cette émission à chaque fois se dit « Waouh, je vais aller écouter toute la suite ».
En fait, elle met un râteau à la personne dans ce titre, non? Si j'écoutais un peu les paroles.
Je laisse chacun, chacune avec son interprétation.
Ok.
On peut ouvrir, faire des chroniques, etc. Vous pouvez nous envoyer des lettres de ce que vous en pensez. Je ne sais pas. Voilà. Je ne veux pas.
Sinon, au pire, t'en parles dans la chronique de lundi. Hein.
À voir.
À voir.
Bon. Non.
On continue quand même cette émission avec une des chroniques du mercredi. Nicolas, le prêt-à-penser.
Quel sentiment tu ressens? J'aimerais faire une... Introspection.
Une introspection, quoi.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde la introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. C'est l'heure du prêt-à-penser, votre rendez-vous psycho, un mercredi sur deux dans l'oreille curieuse. Je suis Nicolas, je suis psychologue clinicien et aujourd'hui, je vais vous parler du concept central de la psychanalyse, l'inconscient. Sur le plan historique, le concept d'inconscient a été identifié comme tel et conceptualisé entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle par le plus célèbre des psychanalystes, l'inventeur, pour ainsi dire, de la psychanalyse, Sigmund Freud. Alors l'inconscient, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais peut-être qu'il est plus compliqué d'en avoir une idée précise. C'est pourquoi je vous propose une brève présentation de ce que ce concept vient désigner et son rôle dans ce qui peut arriver à un niveau psychologique chez chacun. Posons comme point de départ que depuis que l'être humain est devenu un être de culture, ce qui le distingue de l'animal, il se pose pour lui la question de son identité, et donc de sa construction identitaire. Dès qu'il vient au monde, il se rend compte qu'il baigne dans un univers de langage parmi ses semblables, que ses semblables attendent quelque chose de lui, l'ont imaginé avant sa naissance, l'aiment d'une certaine manière, etc., etc. Bref, le petit homme arrive dans une culture qui l'attend et pas n'importe où dans la nature. Il ressent alors le fait qu'être ne suffit pas et s'impose à lui le besoin vital d'être parmi les autres et en fonction des autres. Ce qu'il est par essence n'a déjà plus beaucoup d'importance. Commence pour lui désormais le long et difficile travail de la construction identitaire. Construire son identité relève d'une dialectique complexe entre soi et les autres. C'est d'une part se situer par rapport au désir des autres, mais de ce fait également développer une forme d'amour-propre. C'est s'identifier à des choses plus qu'à d'autres, c'est vouloir être quelqu'un correspondant à cette identification, et donc cela implique de dégrossir en quelque sorte, sculpter le bloc de ce que l'on est par nature en effectuant un tri entre les éléments acceptables, compatibles avec l'idée qu'on a de soi-même, et les éléments moins compatibles. La construction identitaire et l'acquisition de l'amour de soi impliquent donc une forme d'autocensure répondant à une sorte d'ordre moral interne personnel. En gros, la culture doit contraindre la nature humaine, contenir son animalité. Ceci va provoquer chez l'être humain, coincé entre sa nature et la culture, un effet de division interne, une perte de vue de toute une partie de lui-même et un traitement sélectif des éléments de son vécu. Freud a modélisé ce tri, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au tout début du XXe siècle. Il l'a modélisé de manière suivante. Avant d'arriver dans la conscience, c'est-à-dire avant que nous ne prenions conscience d'avoir telle ou telle idée, de ressentir tel sentiment, etc., les éléments vont rencontrer une espèce de vigile, qu'on pourrait même s'amuser à imaginer comme un videur de boîte de nuit, qui sera à même d'attribuer un droit de passage ou pas, en fonction de comment les éléments se présentent. Cette instance chargée du tri, Freud l'appellera dans un premier temps le préconscient. C'est la case obligatoire avant l'entrée dans la conscience. Plus tard, Freud affinera, complexifiera cette représentation, mais je m'en tiendrai à cette première topique, comme on l'appelle, car elle a le mérite d'être facilement intelligible. Donc, tout ce qui n'est pas compatible avec l'ambiance souhaitée de la boîte de nuit de la conscience, parce que pas habillé comme il faut, en tout cas ne présentant pas comme il faut, est contraint à demeurer dans l'inconscient, c'est-à-dire hors de la conscience. C'est ce que Freud appellera très logiquement le refoulement. Pour autant, ce qui est refoulé ne cesse pas d'exister, bien au contraire. Ça demeure sur le territoire de l'inconscient, bien plus vaste que la petite boîte de nuit de la conscience. Et étant donné qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que d'entrer dans cette boîte de nuit, qu'aucun plan B n'est possible, eh bien toute la charge pulsionnelle de ces éléments refoulés n'aura de cesse de se manifester d'une manière ou d'une autre, de faire pression, de tenter des incursions dans la boîte de nuit, bref, agir comme perturbateur d'un ordre établi qui tend à nier leur existence et leur place. Comme on dit, chassez-le par la porte, il revient par la fenêtre. C'est donc sur ce mode que va se vivre, se faire sentir la division interne dont je vous parlais tout à l'heure. Ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir étranger à vous-même, ou tout du moins de vous surprendre vous-même à l'occasion d'une émotion, d'un sentiment qui ne vous ressemble pas. Parfois même faire un geste ou une parole qui vous échappe, un lapsus, un rêve qui vous semble des plus perturbants mais qui est pourtant le fruit de votre propre esprit. Eh bien, ce sont autant de manifestations de votre inconscient. L'aspect bizarre, absurde, incompréhensible vient du fait que vous n'avez accès qu'à un signe détaché d'un sens plus large, qu'à une toute petite partie, hors contexte, de ce quelque chose d'inconscient qui n'a pu se placer que sous une forme suffisamment mystérieuse pour tromper la vigilance du préconscient. La psychanalyse considère que toutes les formes de maladie mentale, qu'elles soient graves ou communes, ont à voir avec ce conflit interne constitutif de l'esprit humain. Freud identifiera l'inconscient comme bien plus influent sur la vie psychique d'un individu que les ressources de sa conscience, qu'il considérera de plus en plus comme une simple résultante, un compromis en quelque sorte entre les instances morales et l'inconscient. Il écrira cette phrase fondamentale en psychanalyse : le moi, comprenez le conscient, n'est pas maître dans sa propre demeure. Concrètement, en psychothérapie analytique, il va s'agir de saisir les manifestations de l'inconscient par un examen minutieux des moments racontés par le patient où ce dernier s'est ressenti étranger à lui-même, où quelque chose de lui-même lui a échappé. De ce petit quelque chose, il va s'agir de remonter le fil jusqu'à des éléments plus enfouis de l'inconscient qui vont se rapprocher du sens de ce qui cherche à se dire. Pour remonter ce fil, la méthode dite de l'association libre consiste à inviter le patient à dire tout ce qui lui passe par la tête à partir d'un point de départ, sans aucun souci moral ni de pertinence. Et maintenant que vous avez saisi le caractère moralement indésirable des éléments inconscients qui n'ont pas accès tel quel à la conscience, vous comprendrez peut-être mieux, je l'espère en tout cas, la première consigne d'un psychothérapeute à son patient, celle de parler en s'efforçant de n'exercer sur sa parole aucune forme d'autocensure. Merci d'avoir écouté ce prêt-à-penser qui touche à sa fin. Je vous retrouve dans 15 jours, toujours dans l'oreille curieuse et toujours sur Radio G.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux. Super.
Merci beaucoup, Nicolas. J'ai déjà l'impression de rentrer en séance. Moi, ça me fait gamberger à fond le prêt-à-penser. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques en entier, depuis le début de saison même, sur le site de Radio G, à la page du prêt-à-penser. C'est dans l'onglet podcast. Sinon, rassurez-vous et ne paniquez pas si vous vous sentez un peu toqué de la tête. C'est tout à fait normal. Allez, qui dit, on a parlé de discothèque. Moi, ça me fait penser au clubbing. Donc, j'ai choisi un titre pour vous donner envie de bouger.
De clubber.
Call my name, don't you say it like you don't wanna say it back. Making everybody know it. No pain, no gain. Gonna love you like ain't no other way around. Making everybody say it.
C'était le dernier titre de Kiddy Smile, Turn It Up, pour nous secouer, nous réveiller. Vous êtes à l'écoute de L'Oreille Curieuse, la quotidienne de Radio G. Et maintenant, on retrouve notre hebdomadaire chronique avec le guichet choral et céleste.
Exactement. Les fantômes ne sont pas les seuls êtres surnaturels à peupler le cinéma. Il y a toute une variété impressionnante de créatures qui pullulent dans les longs métrages. Communément appelés monstres, ils permettent à des cinéastes d'expérimenter beaucoup de choses dans leurs films. Et c'est pour cela que j'ai voulu leur consacrer une chronique. Donc bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral et aujourd'hui on va voir les monstres au cinéma. Alors on commence comme d'habitude avec un peu d'histoire. Vous vous en doutez bien, le cinéma de monstres n'est pas une chose récente. La toute première mise en scène du créature fantastique dans les salles obscures était la créature de Frankenstein en 1910, donc qui est adaptée du roman de Mary Shelley. Et le genre a surtout été popularisé par les célèbres Universal Monsters dans les années 20-30, qui, donc les Universal Monsters, pardon, c'est un ensemble de films d'horreur et de science-fiction qui sont tous produits par le studio Universal. On y retrouvait des figures comme la momie, Dracula, le loup-garou, la créature du lac noir, l'homme invisible, et bien sûr la plus célèbre adaptation de l'histoire de Frankenstein avec la créature interprétée par Boris Karloff. Vous savez, celle avec la créature avec des clous dans le cou, bah, ça vient de là.
Ouais, le Frankenstein qu'on imagine.
Le Frankenstein de base. Le plus connu en tout cas. C'est lui interprété par Boris Karloff. Et le cinéma, surtout le cinéma d'horreur, est truffé de créatures en tout genre. Et durant ma veille de recherche pour cette chronique, j'ai décidé de prendre 4 films qui sont suffisamment caractéristiques des films de monstres et des films d'horreur. The Thing de John Carpenter, Cloverfield de Matt Reeves, Ça d'Andrés Muschietti, donc le remake, pas le téléfilm, et Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Commençons donc par le premier, puisque nous sommes des gens civilisés. Donc, avec Les Parasites et la Paranoïa, avec le film donc de The Thing de John Carpenter.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Et combien de temps as-tu resté seul avec lui?
Je crois que Blair ne tourne plus rond.
Vous allez lui laisser le commandement sans savoir s'il n'est pas une de ces choses?
Je ne sais pas à qui me fier.
The Thing, sorti en 1982, réalisé par John Carpenter, raconte l'histoire d'une équipe de scientifiques qui découvre une créature gelée. Ramené à la vie, le monstre prend l'apparence de toute forme organique qu'il trouve et décime un à un les membres de l'expédition. Le fait que le parasite prenne l'apparence de n'importe quelle forme de vie augmente la paranoïa de chaque personne. Cette paranoïa, on peut la retrouver dans de nombreux films, par exemple dans un film de 67, L'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel, qui est excellent, dans lequel les extraterrestres remplacent peu à peu les humains par des copies conformes mais sans âme. Le concept de parasite dans le cinéma est intimement lié à celle de la paranoïa, car lorsque les protagonistes du film savent qu'une créature étrangère rôde et que cette créature peut prendre n'importe quelle forme ou bien investir n'importe quel corps, ils se mettent à se méfier de tout et de rien. Et cette paranoïa, elle se répercute ensuite sur le spectateur qui, à son tour, doute des personnages que le scénario lui a introduits au début du film, certains personnages qu'on a pu apprécier au début. On retrouve la même sensation de doute que lorsqu'apparaît l'idée d'un traître dans un petit groupe. Cette notion de doute et de paranoïa ambiante est d'autant plus importante dans un endroit clos où les personnages ne peuvent pas s'enfuir à cause d'un événement extérieur, par exemple une tempête de neige dans The Thing. C'est un procédé assez classique d'histoire policière, surtout celle se déroulant dans un groupe réduit. Par exemple, le chef-d'œuvre de littérature d'Agatha Christie, Les 10 petits soldats, où ils étaient 10, je ne sais plus comment il était renommé, mais j'espère que c'est le premier parce que c'est plus logique, ça colle avec l'histoire, qui parle d'un groupe de 10 personnes assassinées l'une après l'autre. Bref, Le Parasite d'un film d'horreur, ou de tout autre film, est une allégorie fantastique du tueur en série. C'est vrai, remplacer la créature par un Michael Myers ou un Jason Voorhees avec son masque de hockey qui est infiltré au milieu d'un groupe dont les membres disparaissent un par un, et vous avez The Thing de John Carpenter. Bon, évidemment, le problème des parasites, c'est que ça ne se voit pas. Les films qui utilisent ce procédé se basent davantage sur la paranoïa, la peur des autres et le rejet. Les monstres sont donc au second plan, et moi j'aime bien quand il y a des monstres, parce que je trouve ça joli. Contrairement donc à la deuxième partie, où les monstres sont bien plus que visibles, étant donné qu'ils sont énormes.
«
La plus grande représentation connue de monstre géant et qui a le droit à le plus de films, 36 au total avec celui qui sort cette année, est bien évidemment Godzilla, dont vous venez d'entendre le cri à la fin de l'extrait que je viens de passer. Godzilla est ce qu'on appelle un kaiju, un monstre issu de la culture japonaise. Ce mot est très souvent utilisé pour désigner des créatures étranges et titanesques. Godzilla est souvent vu comme une force de la nature, une créature si dantesque qu'elle ne peut être détruite sauf par quelque chose d'aussi grand. Il lui arrive de se battre contre d'autres kaiju afin de défendre son territoire qui est la planète Terre, sans forcément de se préoccuper de ce qu'il se passe à côté. Alors je vous l'accorde, les films avec de gros monstres sont plus de l'ordre du film catastrophe. Après tout, l'exemple dont je vais vous parler est de type film catastrophe, mais il va surtout me permettre d'avoir une passerelle dans le monde de l'horreur. Cloverfield, sorti en 2008 et réalisé par Matt Reeves, le même Matt Reeves à qui on doit deux volets des films récents de la planète des singes, raconte l'histoire d'un monstre qui ravage New York et dans laquelle un groupe d'amis tente de survivre. Et ce qui est intéressant dans ce film est déjà que le monstre n'est jamais montré à l'écran. C'est un peu hypocrite, je sais, puisque tout à l'heure j'ai dit que j'aimais bien quand les monstres étaient vus. Mais là c'est intéressant parce qu'il n'est que suggéré par l'immense destruction qu'il produit. Et ensuite, le film est un found footage. Qu'est-ce qu'un found footage ? C'est un film dans lequel la caméra fait partie de la diégèse. Qu'est-ce que la diégèse ? C'est ce qu'on voit dans le film. Dans la très grande majorité des films, la caméra ne fait pas partie de la diégèse. Les acteurs sont filmés avec, mais ne fait pas partie intégrante du récit. Dans le found footage, la caméra est forcément à l'intérieur de l'histoire, soit tenue par un personnage, soit en tant que caméra de surveillance ou toute autre idée impliquant la présence d'une caméra dans l'histoire. Le found footage implique donc que tout ce qui est montré à l'écran est filmé par quelque chose ou quelqu'un. Trois des grands exemples de l'horreur, donc on y revient, sont Paranormal Activity, The Blair Witch Project et Rec. Paranormal Activity, sorti en 2007 et réalisé par Oren Peli, raconte l'histoire d'un couple hanté par quelque chose de mystérieux et sévissant la nuit. Donc les protagonistes vont choisir d'investir dans une caméra, filmant ce qu'il se passe la nuit. D'ailleurs, l'accroche du film était « Qui que c'est-il qui se passe quand on dort ?» The Blair Witch Project, sorti en 1999 et réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, relate la disparition mystérieuse de trois jeunes cinéastes dans la forêt de Black Hill au cours d'un reportage sur la sorcellerie. Le film est donc composé du reportage des trois personnages dont la cassette a été retrouvée après leur disparition. D'ailleurs, found footage veut littéralement dire « métrage trouvé ». Quant à Rec, de Paco Plaza et Juame Balaguerro, est sorti en 2008, nous raconte la vie d'Andrela, ou Angela, je sais pas, c'est espagnol, donc j'imagine que c'est Andrela, journaliste pour une télévision locale qui, accompagnée de son caméraman, relate le quotidien de ceux qui travaillent la nuit. Jusqu'au jour où une urgence dans une caserne de pompiers va bouleverser son quotidien. Vous imaginez bien que l'urgence, c'est en rapport avec l'horreur. On a donc ici trois films d'horreur fonctionnant tous avec le principe du found footage. L'avantage de cette technique est qu'elle coûte relativement peu cher à produire. Il faut juste une caméra un peu naze et quelques acteurs. Pour les effets spéciaux, pas besoin, puisque les personnages préfèrent se filmer à réagir plutôt que de nous montrer ce qu'il se passe réellement. L'inconvénient est que ça coûte relativement peu cher à produire, et donc n'importe qui y va de son found footage sans subtilité, avec juste une caméra un peu naze et quelques acteurs, sans effets spéciaux, car les personnages préfèrent se filmer à réagir plutôt que de nous montrer ce qui se passe réellement. Cette parenthèse du found footage étant terminée, reprenons notre inventaire des monstres au cinéma. Puisqu'après les gros monstres aliens, il y a aussi les petits monstres aliens, agissant comme des chasseurs, comme dans ça, ou Alien.
Tu m'as l'air sympathique, je suis sûr que tu as plein d'amis.
J'en ai trois, mais mon meilleur ami, c'est mon frère.
Et où est-il ?
Il est malade, il reste au lit.
Je sais comment lui remonter le moral, je vais lui offrir un ballon. Tu veux un ballon aussi, Chao-Chi ?
Mes parents m'ont dit de jamais accepter de cadeau d'un inconnu.
Oh, moi, je m'appelle Gripso, le clown danse. Gripso ? Ouais, je vous présente Chao-Chi. Chao-Chi, voici Gripso, le clown. Voilà, maintenant on se connaît, n'est-ce pas ?
Ça, réalisé par Andrés Muschietti et sorti en 2017, est adapté du livre de Stephen King du même nom. Le film et le livre relatent l'histoire de sept enfants ayant du mal à s'intégrer et étant rejetés par tout le monde. Ensemble, ils vont former le club des ratés. Ils ont également pour point commun d'avoir été confrontés à une créature polymorphe qu'ils appellent ça, et qui s'appelle Gripsou, donc le clown dansant. Une bestiole qui se tapit dans les égouts de la ville et qui, tous les 27 ans, sort pour se nourrir d'enfants après les avoir confrontés à leur pire peur. Vous connaissez sûrement cette histoire puisqu'elle a fait naître une peur bleue des clowns chez toute une génération, surtout à cause du téléfilm de 90. Quant à Alien, le 8e passager, réalisé par Ridley Scott et datant de 79, nous compte l'histoire de l'équipage du Nostromo, un vaisseau spatial, qui fait face à un mystérieux passager clandestin extraterrestre et meurtrier. Dans les deux films, la créature est d'origine alien, d'où l'intérêt de les mettre ensemble. Et dans les deux films, on a cette thématique de chasse et de monstres tapis dans l'obscurité. Mais le plus intéressant dans les deux longs métrages est le travail du réalisateur, qui cherche à nous mettre mal à l'aise bien plus que de nous faire peur. Dans ça, Muccietti utilise la créature de façon intelligente. À chacun de ces meurtres, on a toute une séquence de montée dramatique dont on connaît déjà l'issue, l'enfant va se faire bouffer. Mais là où il pourrait rendre ça rapide, le monstre joue avec sa victime. Il discute, il prend son temps. Si bien qu'on a le temps d'espérer que l'enfant se fasse secourir au dernier moment. La séquence est suffisamment longue pour que la mort soit surprenante et inattendue, suffisamment pour nous faire sursauter. Je vous avais parlé lors de ma chronique sur les fantômes que j'étais pas très fan des jumpscares, ce moment où quelque chose de très soudain arrive avec un effet sonore assourdissant, provoquant inévitablement le sursaut. Et bien pour ça, c'est différent. Le jumpscare arrive au terme d'une scène angoissante, c'est presque une délivrance. D'autant plus que ceci... Les jumpscares ne sont pas utilisés à outrance et arrivent à nous scotcher véritablement au fauteuil. Pour Alien, c'est légèrement différent car la créature est un animal prédateur, dont le but est de décimer la moindre créature vivante qui se trouvera devant lui pour investir le vaisseau spatial. Le xénomorphe, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, est toujours dans l'ombre. On le voit jamais vraiment. Chaque membre de l'équipage qui disparaît un à un, on ne sait pas vraiment pourquoi ou comment il a disparu. On sait juste que c'est à cause de la créature, car il est là. Il n'a finalement même pas besoin d'être là, vraiment physiquement, puisque la simple pensée du fait qu'il se balade dans un coin du vaisseau est suffisante pour nous tenir en haleine durant tout le film. On a à nouveau un endroit clos et des personnages qui disparaissent l'une après l'autre, comme dans The Thing, mais ici, les membres de l'équipage n'ont aucune raison de douter des autres, puisque la créature est un être à part entière, sans capacité de métamorphose. Les deux monstres cités précédemment, donc Gripsou et l'alien, sont des chasseurs. Leur but n'est pas de tuer pour le plaisir, mais résulte d'un instinct primaire. Ça, pour se nourrir, et le xénomorphe pour investir les lieux. Le plaisir, on le retrouve plutôt chez le réalisateur qui s'amuse à mettre en scène chaque présence de la créature, chaque meurtre de la créature, cherchant à surprendre sans cesse le spectateur. Et pour le dernier film de monstres dont je voulais vous parler, à savoir Le Labyrinthe de Pan, on s'y attaquera une prochaine fois. Car il s'agit d'un film fantastique, et le fantastique a besoin d'avoir sa propre plateforme, et j'ai vraiment besoin de développer, de parler de plusieurs choses en même temps, et on n'a malheureusement pas le temps.
La fausse annonce.
Désolé. C'est donc ici que s'achève cette chronique monstrueuse. Je vous conseille bien évidemment The Thing de John Carpenter, Cloverfield de Matt Reeves, les trois films Paranormal Activity, Blair Witch Project et Rec qui sont de très bons exemples de films found footage. D'ailleurs, si le sujet de found footage vous intéresse, je vous conseille l'excellent épisode de Chroma, disponible sur YouTube et sur Dailymotion, sur Paranormal Activity. Je vous conseille aussi évidemment Alien de Ridley Scott et ça d'Andrés Muccietti. Tout ce dont j'ai parlé sera évidemment listé dans le podcast de la chronique, pas de l'émission, sur Radio G à la rubrique Podcast Plus.
Guichet Choral, donc.
Guichet Choral. Sur ce, je vous laisse avec Addict, une chanson tirée de la géniale série d'animation Has Been Hotel, qui est disponible sur YouTube, racontant l'histoire d'un hôtel aux enfers, donc peuplé de monstres. C'est dans l'ambiance, c'est dans le thème. D'ici la prochaine fois, voyez des films, portez-vous bien, salut!
Till death do us part. But we're already past that phase. This is a brand new start. And I think I deserve some praise for the way that I am. Despite having overdosed and ending up comatose, I don't give a damn. I've let my emotions go. Fuck being a sober hoe. This is the mantra. This is my life. You're playing with now till the end of the night. Surrounded by fire, the passion ignites. A hidden that heaven and hell are out of the I'm addicted to the madness. This hotel is my Atlantis. We're forever gonna have a fucking
can reason a sin. Let me leave my soul a burning. I'll be breathing it in. I'm addicted to the feeling, getting higher than the ceiling. And we're never gonna want this fucking feeling to end. Just concede and give in to your inner demons again.
But you fell deeper in this pit, while death rains from above. So count your blessings, cause this is it. You're not letting it go. So what if I misbehave? It's what everybody craves. You already know. So come if you're feeling brave and fancy yourself with me. You want it, I got it. See what you like. Could have it all by the end of the night. Your money and power, my sinful delight. A hint of the heaven and hell, a hell of a high. I'm addicted to the madness. This hotel is my Atlantis. We're forever gonna have a fucking reason to sin. Let me leave my soul to burn it. I'll be breathing. I'm addicted to the feeling, getting higher than the ceiling. And we're never gonna want this fucking feeling to end. Just consider giving to your inner demons again.
Douloureux et curieuse. Ouah, ça enchaîne de fou sur la fête. C'était pas le but. Merci beaucoup, Céleste.
De rien. Ça m'a fait plaisir.
Bah, c'est super. Merci, Mehdi.
Merci à vous.
Pour tout ce que tu as apporté dans cette émission, c'est-à-dire une excellente ambiance. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette oreille curieuse. Vous le saviez, tout est en podcast sur le site de Radio G. Les infos seront mises en ligne demain.
Oui.
Merci,
demain.
Céleste. C'est vraiment important pour les personnes qui nous écoutent.
Oui, j'imagine bien.
Tout le monde fait la fête bientôt à la maison, puisqu'il va être 19h, heure du couvre-feu. Demain, à 18h10, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct. Il y aura Margot qui nous parlera de cinéma, mais à travers la mise en scène d'un film. C'est un angle un petit peu différent. La chronique s'appelle « D'étoiles plein les yeux » et demain, on ira danser. Ça vous fait penser à un film ? Une danse sale.
Je sais pas.
C'est
une
un quiz.
Musical.
Non, c'est Dirty Dancing.
Ah.
Mais je vous le dis, alors demain, quand vous écouterez, vous ferez semblant d'être surpris, car sans doute on ne dira pas l'info dès le début de l'émission.
Ok, pas de problème.
C'est un petit tips pour les pour les auditeurs et les auditrices très fidèles.
On fera semblant.
D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire. Ça peut se passer sur les pages des réseaux sociaux de Radio G, Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site. Je ne vous redonne pas l'adresse car tout le monde la connaît par cœur, mais nous avons un formulaire de contact qui fonctionne très bien, qui est très pratique. D'autres choses à ajouter ?
Non, comme d'habitude.
Que de refus, oui.
Les chroniques sont toujours sur le site et sur Spotify pour les miennes.
Oui, je...
Je fais de la pub.
On vient de le dire.
Venez gonfler les statistiques.
Très bien, merci beaucoup. À 19h dans quelques minutes, eh bien, c'est la programmation musicale. Très, très bonne soirée à vous.
Bonne soirée à vous.
À bientôt.
À demain.
Through my brains,
heating up, belly, I just heating up. It's
need your love. Now that beat it is a present. Feeling stuck, you know how to keep me up. Icy love, icy like a hockey puck. For this life I cannot change. Hidden hills, deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang.
Pop it, for this life I cannot change. Hidden hills, deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang.
All the ones, all the chains piled on the mantle. All the dogs low creep right behind me in the phantom. Yeah. Never go dip on the set, stay Santana. Yeah. Run it back, turn the lights on when I hit up Green Lantern. Yeah. Fly the bras, fly the dogs down to Atlanta. Yeah. In the cut, in Medusa, lay low, yeah, I might be. Yeah. Roll up, help me calm down when I'm moving high speed. Yeah. If I send one, need to text back, cause you know what I need. Oh, please. Oh, me. Oh, my. We've been moving for some time.
Alright.
Flexing, flexing, try to exercise. For this life I cannot change. Hidden hills, deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang.
Pop it, for this life I cannot change. Hidden hills, deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang.
Drop a hot potato, and I drop a hot potato, cause my style is so fake.